Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Hier, la presse nous apprenait que l'écrivain et professeur Samuel Archibald, pas trop clair, mais en tout cas, quitte l'UQAM. Sa maison d'édition l'a laissé tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des plaintes. Deux étudiantes qui étaient sous son autorité ont porté plainte. Il y a eu une enquête indépendante qui a été menée. Et on a retenu donc une vingtaine d'allégations. Et là, on parle quand même d'allégations de nature de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel. Deux plaignantes sont avec nous, donc ce matin en studio que je vous présente. Iris Grondin, bonjour.
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 Allô.
Et Lucille Rigbush, bonjour.
Bonjour.
Je vais commencer avec vous, si vous me permettez. Peut-être résumer pour nos auditeurs, nos auditrices, de quelle façon vous êtes entrés en contact avec ce professeur-là. C'est arrivé comment?
Ben, c'est un contact qui remonte à très loin, c'est-à-dire que moi, j'étais étudiante au niveau du bac. En fait, je faisais un bac par cumul, donc je l'ai rencontré dans le cadre du certificat en création à l'UQAM. Donc, ça a été un de mes profs. Et étant en création, j'ai quand même eu plusieurs cours avec lui.
Et comment s'est développée la relation avec lui, au-delà du cours qu'il avait donné?
Eh bien, dans un premier temps, c'est un parcours presque classique, c'est-à-dire que à l'issue du bac, je suis rentrée à la maîtrise. À la maîtrise, il y a été question de choisir un directeur ou une directrice. Ça me paraissait tout naturel que ce soit Samuel Archibald, étant donné que j'avais fait mon parcours avec lui, qu'il avait déjà corrigé plusieurs travaux, qu'on a vu des échanges sur ce que je faisais, et donc on a poursuivi donc à la maîtrise avec lui comme directeur.
Et diriez-vous que c'est un peu le même parcours que vous avez suivi?
Oui, en plus, moi, quand je terminais mon bac, il y avait eu l'affaire des placardages à l'UQAM. Donc, c'est...
Peut-être le préciser pour les
gens. Oui, c'est ça. C'est des professeurs qui avaient été visés de façon anonyme, des gens qui avaient mis des pancartes sur leur porte de bureau par rapport à des allégations là, de violence à caractère sexuel. Et moi, c'est ça, je finissais mon bac, je voulais un directeur ou une directrice, puis là, c'est sûr que c'était un enjeu pour moi, la sécurité, là, quand même, tu sais, c'est paniquant, tu veux une personne de confiance et tout, puis là, moi, je lisais le livre de Samuel Archibald, et puis à la maîtrise, j'ai rencontré Lucille, on s'est bien entendu, puis elle m'a parlé en bien de Samuel, fait c'est comme ça qu'en 2016, je l'ai rencontré pour lui demander de me diriger. J'ai commencé par y envoyer un courriel UQAM. Il m'a pas répondu. Fait que là, très actif sur Facebook, je lui ai demandé de me diriger. Puis là, dès le jour 1, là, il y a eu du harcèlement sexuel. Là,
c'est un peu ça ma question. À quel moment là, ça a franchi ce qu'on appelle la ligne entre le prof et son étudiante et c'est devenu autre chose?
Ben, dès le départ, lui, il flirtait. Tu sais, il m'a répondu « Ah, demander comme ça, c'est avec le petit bonhomme clin d'œil, là, c'est sûr qu'on peut pas refuser. » Là, est-ce que moi, j'ai trouvé ça spécial? Oui. Est-ce que j'avais d'autres choses à fouetter? Oui. On travaille très fort. Le bac est difficile. Moi, ça m'a pris plusieurs années là, parce que j'ai des troubles d'apprentissage aussi. Donc, tu sais, ensuite de ça, j'ai rencontré. Là, ça a duré même pas 15 minutes. Il m'a pas vraiment parlé de mon projet. Il avait à peine lu ce que je lui avais envoyé. Mais c'est la première fois de ta vie que tu rencontres un directeur. Tu sais pas comment ça va se passer. Moi, je me pensais en sécurité. J'ai jamais pensé que je vivrais du harcèlement sexuel ni que je vivrais des violences à caractère sexuel de la part d'un professeur. C'est ta deuxième maison. Tu as passé un nombre infini de jours là-bas à ton école, tu sais. Puis,
fait que c'est ça. Ouais, dans votre cas, à quel moment ça a dépassé la ligne?
Ben, disons que poser la question comme ça, c'est pas aussi net. C'est-à-dire que c'est comme n'importe quelle relation d'emprise, ça se fait petit à petit, puis ça se bâtit. Alors dans mon cas, et puis c'est spécifique, je pense, quand on étudie en création, c'est-à-dire que on a c'est quand même assez courant, on rencontre nos professeurs des fois ailleurs qu'à l'UQAM pour discuter autour d'un café de ce qu'on a fait. Donc il y a un retour. Dans le cas de Samuel, d'habitude on reste quand même dans un certain périmètre de l'UQAM. Dans le cas de Samuel, lui, il demandait, il exigeait qu'on se rencontre dans son quartier. Donc ça commençait comme ça. Alors autour d'un café, finalement, les discussions. Hein, et puis, il est question aussi, quand on écrit, je pense, de nos vies, de notre intimité. Alors, ça vient dans la conversation et c'est pour ça que c'est très, très délicat et qu'on est aussi dans une zone de vulnérabilité assez importante. Et donc, ça a avancé comme ça. Et je dirais qu'en fait, le point tournant, ça a été sa dépression. Puisque lorsqu'il est tombé en dépression, moi, il m'a écrit, c'était à l'automne, il m'a écrit, bon, voilà, j'ai un congé maladie, mais je souhaite conserver mes meilleurs étudiants et étudiantes. Tu en fais partie. En gros, ça me ferait de la peine qu'on se quitte, hein, puisque c'était un peu ça.
Mais étiez-vous en amour avec lui? Est-ce que c'est devenu ça au fil du temps?
Au fil du temps, je vais répondre pour moi, mais au fil du temps, oui, un amour trouble, un amour dans le sens où pas un amour amoureux, mais c'est quelqu'un, je veux dire, qui a aussi une finesse et une intelligence hein, dans tout ça. Donc, et moi, les discussions que j'avais avec lui sur l'écriture, je veux dire, quand on est en création, je veux dire, avoir un interlocuteur comme ça, je veux dire, oui, c'est enthousiasmant. Alors, et puis c'est quelqu'un qui, pour moi, en tout cas pour ma part, se confiait tellement que j'avais l'impression qu'il y avait vraiment une amitié forte, je parlerai de ça, là, une amitié forte, et qui est devenue trouble, effectivement, avec le temps, mais qui naissait. Donc, oui.
Et dans votre cas?
Ben, ça s'est développé au fil du temps. Ce qu'il faut comprendre aussi, durant sa dépression, bon, même chose avec moi, il me dit... Je veux garder, ça me donne une bonne occasion de garder mes élèves les plus importants. Puis là, tu sais, lui, gros éditeur, je croyais en son talent, puis tout ça. Puis c'est des sentiments que j'ai développés avec le temps, mais je peux pas... Tu sais, on avait des moments de joie aussi, mais tu sais, moi, j'ai vécu de la violence conjugale avec lui aussi. Ça a pas été facile, puis je peux pas dire que j'ai été bien avec lui. Tu sais, oui, je l'ai aimé, je l'ai énormément aimé, mais j'ai essayé... à plusieurs reprises de le laisser, tout ça, mais c'est...
Est-ce que je comprends, la chronologie, là, il était en couple, il vous fréquentait, puis il vous fréquentait vous aussi en même temps?
Exactement. Tout en étant en dépression, donc ça fait comme beaucoup d'énergie en même temps.
Tout en étant à la radio?
Ouais. Mais moi, ça, je le savais pas. Il me mentait de façon éhontée, et ben moi, je le croyais, tu sais.
Quand vous dites des épisodes de violence, hier, je disais dans un article de la presse, parce que du harcèlement, c'est une chose, mais là, on passe là à un acte physique, il vous prend au cou, c'est à un autre niveau de violence, là.
Totalement. Ça, c'est un processus, comme je vous disais, vous me demandiez quand est-ce que ça a commencé. Ça, c'est le point final et pour moi, le point culminant de cette relation, mais effectivement, moi, j'ai
il s'est passé quoi exactement?
Ben, c'est sûr que c'est toujours délicat à le raconter. Moi, ça m'a pris du temps. Je suis restée avec ça pendant très longtemps et dans le processus de s'autoriser à penser qu'on a vécu justement une agression, ça aussi, ça prend du temps. Ça prend finalement un miroir, c'est-à-dire d'en parler. Pour ma part, ça a été vraiment le processus d'enquête de l'UQAM qui m'a permis, moi, de savoir nommer ça comme une agression. Mais donc c'est ce qui est dit dans l'article de la presse, à savoir que bon, au final, il finit par m'inviter sur son terrain je rejoins. Je veux dire, ce qui se passe finalement tout le temps, c'est-à-dire qu'on a des discussions sur tout et rien, c'est fort sympathique, mais il n'y a aucune intimité, et encore moins une intimité physique qui est là. Et le soir, pour une raison que je ne m'explique pas, tout s'est un peu enchaîné, l'alcool aidant évidemment, mais les matelas sont rapprochés, puis... En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, en fait, je suis nue avec lui, puis je veux dire, on a une relation sexuelle, puis tout de suite, il m'étrangle, en fait. Et donc, à ce moment-là, moi, je suis quand même saisie, j'ai le réflexe d'enlever sa main, Et puis voilà, il accomplit ce qu'il a à accomplir. Hein.
Je comprends très bien.
Pas dans les détails, mais voilà.
Il y a deux ou trois choses que je voudrais éclaircir. Est-ce que vous sentez que dès le départ, il s'est servi de son statut de professeur? Il avait une relation d'autorité avec vous. Il supervisait vos travaux pour vous séduire, pour être en mode séduction. Et que c'était calculé. Il l'a fait avec vous.
Ben moi, c'était très clair. Là. J'en ai reparlé avec lui. Je pense qu'il n'a jamais eu l'intention de me diriger de manière sérieuse. Puis moi, ça branlait dans le manche, tout ça. J'ai abandonné ma maîtrise. J'ai fait la scolarité. J'ai jamais fait mon mémoire. Puis quand j'en parlais avec lui, c'était très clair. Là. Lui, il m'a trouvé belle quand il m'a vue. Moi, il n'y avait pas de ça là, quand je l'ai rencontré. Ça c'est... Au fil du temps, des choses qu'il disait, que Lucie le harcelait aussi. Moi, quand je l'ai rencontré, il disait que lui était victime de violence conjugale. Donc, il avait l'air de cette personne-là.
Je vois la victime, là.
Oui, oui. Puis ça a été très long pour moi à saisir, ça. Et en août 2020, quand il y a eu une page Facebook de dénonciation sur le milieu littéraire, son nom est sorti deux fois. Puis moi, j'étais pas sur cette page-là. Et moi, c'est là que la violence conjugale a explosé. On avait déjà à ce moment-là, mais il y a eu un soir en particulier, puis un matin, puis c'est là que moi, je suis partie. J'ai été hébergée chez mon ami. J'ai pris mes claques. Puis, mon Dieu, il m'a menacé. Hein. J'ai eu peur. J'ai eu peur.
Il te faisait peur, là.
Ben oui, j'étais terrorisée.
Mais pour répondre à votre question sur est-ce qu'il s'est servi de son statut, évidemment. Évidemment, mais je dirais même que dans son cas à lui, dans le cas de Samuel, c'est l'aura un peu plus générale, c'est-à-dire c'est le prof, mais c'est l'écrivain. Mm-hmm. Et moi, à un moment donné, comme je sentais que la relation prenait une tournure que j'identifiais mal, mais qui me mettait mal à l'aise par rapport à mon projet justement de mémoire, et j'avais quand même à cœur de finaliser ça. Hein, Iris, elle a dû laisser tomber. Moi, j'ai quand même. Je veux dire, je trouvais ça difficile. Alors, j'ai changé de direction. Et quand je n'étais plus, donc, dans un rapport direct de direction, là, il y a quelque chose qui a embarqué. C'est l'écrivain en lui. Donc, en fait, il m'a dit, et ça a été, plus tard, j'ai su de par mon éditeur que c'était faux, mais il m'a dit, écoute, moi, j'ai un deal avec le Cartanier, je vais devenir un éditeur, alors remets-moi ton manuscrit, puis je vais le fournir au Cartanier, puis je vais t'éditer.
Mais donc, il disait ça, moi, je l'ai entendu, et on en a discuté ensemble à plus d'une reprise.
Donc, c'est quelque chose qui dépasse aussi le statut de prof, donc c'est aussi...
Oui, j'allais dire, l'autre chose qui nous a un peu étonnés hier, quand ça a été publié dans la presse, et on en a parlé ici, il y a des gens qui nous ont dit, mais il n'y a personne qui tombe des nues, là.
Moi, j'en ai long à dire là-dessus. Là.
Allez-y.
Le rapport d'enquête, là, puis ma déposition, je l'ai envoyé à Radio-Canada en novembre. J'ai jamais eu de nouvelles. Ensuite de ça, on s'est tourné, je ne vais pas les nommer, là, mais on s'est tourné vers un autre média avant la presse. Il y avait des questions légales, ça a branlé dans le manche, ça n'a pas fonctionné. En novembre, là, quand on me dit il n'est plus à l'emploi de l'UQAM, on m'avait promis que j'allais connaître la sanction, puis je ne l'ai pas connue. L'UQAM ne m'a pas encore remboursé. Tu sais, je veux dire, il y avait quand même une protection, il y avait quand même un effort qui était fait pour pas que la nouvelle sorte. On m'a appelé cette semaine-là, on m'a dit le syndicat a peur à une fuite dans les médias. Et ça, là, ça a été une des pires semaines.
Et c'est l'image de l'UQAM, là.
C'est l'image de l'UQAM, mais comme victime, c'est tellement inouï de se faire dire ça. Cette semaine-là, j'allais tellement pas bien. J'ai eu des idées suicidaires. J'ai dormi durant des semaines, des mois, la lumière allumée. Tu te sens de l'aide, là, du support. Après, plusieurs gens le savaient dans le milieu littéraire. Il a été publié chez Liberté après ça, après les dénonciations dans le groupe privé de Facebook et toutes les autrices et l'information circulait énormément. Donc, il y avait cette affaire-là que tout le monde savait et en même temps, des actions, des vraies discussions, des vrais paramètres, tu te sens tout seul.
Oui, mais il faut quand même, mais c'est, je pense que c'est vraiment aussi la raison pour laquelle on est là, Iris et moi, pourquoi on fait ces démarches-là. C'est-à-dire que dans le milieu littéraire, tout le monde sait et Samuel Archibald, c'est un cas parmi d'autres. Il y en a d'autres.
Oui.
Ce qui se passe, c'est que tout le monde sait. Puis éventuellement, si les éditeurs agissent, les auteurs s'en vont publier ailleurs. Donc, on passe de maison d'édition en maison d'édition. Donc, en fait, tout le monde sait, tout le monde est un peu muselé. Nous, dans notre cas, à l'UQAM, on serait pas censé parler de ça.
Non.
Alors, c'est un choix qu'on a fait. On verra où ça nous mènera. Mais c'est-à-dire que moi, personnellement, je trouve que c'est assez. C'est assez, cette impunité dans laquelle ces gars-là, puisque la plupart du temps, c'est des gars, hein, ces gars-là sont et demeurent. Et de toute façon, on le ressent aussi bien dans nos rapports d'enquête où on a des bribes de ce que Samuel peut dire que dans l'article en question où on sent quand même. Hein, il faut savoir que dans mon rapport d'enquête, à un moment donné, Samuel, il dit « Oui, mais moi, je ne suis pas de la génération du consentement. » Donc, on est vraiment dans ces choses-là. Et ça, je pense que Iris et moi, on n'en peut plus et qu'à un moment donné, la honte, elle doit basculer dans l'autre camp.
J'ai deux questions en terminant. Avez-vous l'intention d'aller plus loin? Parce que vous me parlez de violence conjugale. Est-ce que vous souhaitez aller porter plainte à la police? Est-ce que pour vous, le fait que le rapport soit publié, soit connu maintenant, vous êtes ici ce matin, est-ce que ça clôt le dossier ou si vous souhaitez faire plus?
Ben moi, je... On a fait une déposition à la commission des droits de la personne. Moi, je veux réparation, je veux pouvoir prendre soin de moi aussi. Je souhaite la même chose à toutes les victimes, toutes les survivants, les survivantes d'agression. Je suis rendue là, puis tu sais, j'ai pas eu d'excuses. J'aimerais ça en avoir. L'UQAM, tu sais, c'est quoi de prendre le téléphone? Tu sais, c'est plus ça. Tu sais, comme j'aimerais ça. Je suis plus dans la réparation, puis j'irai pas en cours. J'ai pas l'énergie. J'irai pas. Je ferai pas ça.
Okay. La dernière question, elle est plus dure, mais je l'ai entendue hier, de gens qui ont dit, bon, on a affaire à deux femmes majeures quand même, elles sont tombées en amour, ça a mal tourné, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas, je sais que c'est, mais il faut que je vous la pose cette question-là, pourquoi vous n'êtes pas dit, là, je peux pas aller là, c'est un prof, et tu vous consentant, c'est tout j'en ça que j'entends.
J'en ai dit énormément avec lui, j'ai dit... déclare-le à l'UQAM, pourquoi tu le déclares pas? Là, il faut comprendre que dans un contexte de violence conjugale, tu marches sur des œufs, la personne se fâche, la personne t'a des représailles quand tu t'exprimes. Et je l'ai demandé à plusieurs fois. Et la raison, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il l'a pas déclaré. Pourquoi? Parce qu'il y avait Lucille, parce qu'il était marié, parce qu'il était... les dates qu'on connaît avec son congé de maladie. Donc, je pense qu'il y avait des très bonnes raisons de ne pas le faire. Et puis, des choses qu'on a faites pour se protéger, on le fait aussi. Mais tu te réveilles pas un matin en disant « Je suis en amour avec mon prof » puis tout ça. Tu sais, je veux dire, c'est...
Oui, moi, je pense que c'est une façon assez classique de résumer ce genre de situation en se cachant ce qui existe, c'est-à-dire que c'est un phénomène d'emprise sur du long terme.
Mais le rapport est clair de l'UQAM là-dessus.
Oui, sur du long terme.
À répétition, sur du long terme.
Pour mon cas, c'est du 5 ans. On parle de 5 années.
Moi, 4 ans.
Et puis, il y a aussi vraiment, c'est-à-dire que moi, c'est un cheminement universitaire. Hein, et vous savez que, par exemple, quand j'ai terminé mon mémoire et que je voulais aller au doc, j'ai besoin de lettres de référence. Les lettres de référence, c'est seulement les profs qui vous ont connu qui peuvent faire des lettres de référence. Si le prof principal que tu as eu, c'est quelqu'un, je veux dire, à un moment donné, tu n'as pas le choix. Moi, je l'ai eu dans mes cours de création, je l'ai eu... alors, c'est sûr qu'il y a toujours ce rapport de pouvoir qui est là et qui fait que c'est pas juste qu'on est bêtement amoureuse de notre prof.
Puis l'écosystème littéraire, culturel québécois est tellement petit. Moi, c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, je voulais que ça sorte. Ces gens-là, après, ils sont sur des jurys, ils sont dans les maisons d'édition, ils ont tellement de poids. Moi, je l'ai entendu dire à de nombreuses reprises qu'il nuisait aux personnes, aux femmes qui le dénonçaient. Il le dit textuellement. Donc après, t'as peur.
Je comprends. Merci à toutes les deux d'être
présentes. Merci à vous.
Merci beaucoup.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
On parle beaucoup de justice, d'accès à la justice, de proximité avec la justice. Et la Cour suprême du Canada va visiter la ville de Québec la semaine prochaine. On va y entendre deux appels venant du Québec. Et le juge en chef de la Cour suprême du Canada est avec nous, Richard Wagner. Monsieur Wagner, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, c'est pas très souvent que la Cour suprême va siéger ailleurs. Pourquoi vous le faites et pourquoi vous allez à Québec?
Alors, c'est la deuxième fois de son histoire que la Cour suprême du Canada va siéger à l'extérieur de son chef-lieu, là, Ottawa. La première fois, c'était en 2019, juste avant la pandémie. On a siégé à Winnipeg. On a entendu deux causes là-bas aussi. On a passé la semaine là-bas, les 9 juges. Et on a repris l'expérience. On veut reprendre l'expérience aussi à Québec maintenant. Et donc, on commence lundi. Et donc, ça fait partie de la philosophie en vertu de laquelle moi et mes collègues, on veut faire connaître mieux le système de justice, la Cour suprême, évidemment, ses travaux, qui sont les juges, comment on travaille, pourquoi on travaille, et donc informer les gens qui n'ont pas tous la chance, évidemment, d'aller à Ottawa pour assister à une audition à la Cour suprême, de mieux comprendre le système, de mieux comprendre nos décisions. Ça s'inscrit dans cette volonté d'accès à la justice. Dans la mesure où l'accès à la justice, c'est pas simplement d'aller devant la cour, les délais, les coûts, etc., mais c'est également l'accès à l'information. Mais il faut donner les gens l'information sur le système de justice.
Je lisais hier des commentaires, là, c'est repris ce matin par le quotidien, qu'il y a une espèce de constat qu'il y a un fossé entre le système de justice général là, et la population. Beaucoup de juristes pensent ça, puis beaucoup de juges pensent ça également, quand ils voient des commentaires des citoyens sur des jugements qui sont rendus sur... Je dirais même... une certaine pression qui est exercée sur les juges.
Oui, c'est pour ça que c'est une priorité pour moi puis mes collègues de faire ce qu'on peut pour justement informer les gens. Il y a un appétit pour ça. Vous savez, à Winnipeg, en 2019, les gens étaient en ligne sur le trottoir à 6h30 le matin pour avoir une chance d'entrer dans la salle d'audience. Mais il y a plus que simplement d'entendre les causes, là. Par exemple, à Québec, on va rencontrer la population au Musée de la civilisation, on va rencontrer les étudiants, on va rencontrer dans neuf écoles secondaires. Les 9 juges vont être dans 9 écoles séparées pour rencontrer les jeunes, les étudiants, qui vont leur poser des questions sur le système de justice, sur les juges, sur le travail, etc. Alors, ça fait partie de cette volonté. Je pense que c'est utile. De permettre aux gens d'en savoir plus sur le système de justice, de telle sorte qu'ils puissent maintenir la confiance, leur confiance dans le système.
Je vous donne des exemples, pas des causes, là, mais des questions qui sont soulevées par les auditeurs très souvent. D'abord, quand on parle d'accès, il y a le coût. Beaucoup de gens qui vous écoutent ce matin se disent « j'ai pas les moyens d'aller devant le tribunal, je voudrais bien, là, mais la justice est réservée soit aux gens qui répondent aux critères de l'aide juridique ou encore aux gens qui ont les moyens de se payer des avocats. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Il n'y a pas de remède unique au problème. C'est un problème qui a existé depuis maintenant plusieurs années. Moi, j'ai toujours dit que le système de justice au Québec, au Canada et dans tous les pays où la règle de droit prévaut, là, les démocraties, le système de justice n'a pas été suffisamment financé. Parce qu'on a mis l'argent, puis à bon droit, là, on a mis l'argent dans le système de santé, dans l'éducation. Et ça a causé beaucoup de dommages à moyen et long terme. Notamment, manque de salles d'audience, manque de personnel. Personnel sous-payé, encore aujourd'hui. Vous savez, encore aujourd'hui, il y a des causes au Québec qui sont reportées parce qu'il n'y a pas de greffier dans la salle de cour. Écoutez, on ne peut pas accepter ça. Alors donc...
Mais ça... juste que les gens comprennent, le fait que la cause soit reportée, le fait que, par exemple, ça s'étire, on connaît tous l'arrêt Jordan, oui. on a appris l'expression, là, ça veut dire que ces retards dans le système peuvent faire en sorte que des accusations tombent contre des individus.
Oui, puis une accusation qui tombe, c'est une accusation qui tombe de trop. Ça ne devrait pas exister. Mais on a une obligation, je pense, de tous les acteurs dans le domaine, les politiques, les élus, les juges, les avocats, les barreaux, les médias jusqu'à un certain point aussi, on a tous une responsabilité pour travailler pour faciliter l'accès à la justice, que ce soit par l'information ou que ce soit par l'accès physique au cours de justice. Et donc, il n'y a pas de solution unique. Ça prend plusieurs remèdes afin de faciliter effectivement l'accès, puis qu'on évite des arrêts de procédure, puis qu'on évite des délais épouvantables et des coûts pour les gens qui n'en ont pas les moyens. Alors, je pense que ça prend la participation de tous les acteurs du milieu.
On va y arriver. Oui, autre remarque que j'entends souvent. On a vu, par exemple, dans les cas de crimes où les enfants sont victimes, des sentences plus sévères. Il y a comme une espèce de tendance dans les jugements récemment qui ont été rendus où on considère que c'est plus grave encore qu'un enfant est impliqué. À Montréal, on a des coups de feu partout. Il y a des fusillades toutes les semaines. Il y a des gens qui ont été arrêtés, par exemple, pour trafic d'armes à feu, qui ont fait même pas un an de prison. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des peines minimales quand on a des cas plus graves que ça qui concernent, disons, la sécurité publique?
Bon, la question des peines, évidemment, ça revient au législateur, au Parlement, oui, de décider ça.
Mais est-ce que constitutionnellement, c'est légal de dire pour tel type de crime, exemple importation d'armes à feu, c'est minimum 5 ans de prison? Est-ce qu'on a le droit de faire ça?
Bon, ça, c'est une question qui va probablement venir devant nous. Et donc, j'aimerais ça participer au débat. Et donc, vous allez comprendre.
Oui, je comprends la réserve.
Tout à fait. Mais vous référez tantôt aux agressions sexuelles sur les enfants. Depuis les peines pour de telles accusations maintenant sont augmentées. Les peines sont augmentées. Pourquoi? Parce que la Cour suprême, dans l'arrêt Friesen, et j'ai écrit cet arrêt-là avec le juge Rowe, on a réalisé, selon la preuve qu'on avait, que les crimes contre les enfants, les jeunes, avaient des conséquences, selon la preuve scientifique qui était déposée, énormes pendant toute leur vie. Et que les peines qui étaient données, les fourchettes de peines qui étaient données par les tribunaux jusqu'à ce moment-là, n'étaient pas suffisantes pour compenser effectivement l'effet dévastateur de ces agressions-là. Et depuis ce temps-là, tous les tribunaux au Canada respectent notre décision, évidemment, dans Friesen, et les peines ont augmenté. Et ça, sans qu'il y ait nécessairement d'amendement législatif à la loi. Simplement en utilisant leur discrétion, les juges, en utilisant leur discrétion, peuvent effectivement augmenter la fourchette de peine pour de tels crimes.
Je vous pose une question qui va vous sembler étrange, mais je vous jure que je l'entends très souvent. Jusqu'à quel point, pas sur l'évaluation des faits et la décision, mais jusqu'à quel point l'opinion publique, les commentaires, les analyses influencent, par exemple, une sentence, influencent tout simplement un juge dans l'exercice de ses fonctions?
Ben, les juges ne sont pas, on travaille pas dans des tours d'ivoire, là, on est des citoyens, et puis on lit les nouvelles, puis on regarde les journaux, puis on écoute la radio, puis mais je pense qu'on a au Québec, au Canada, une magistrature professionnelle, indépendante. Vous savez, je dis souvent que le Québec, le Canada, c'est pas une puissance militaire, c'est pas une puissance économique, mais jusqu'à un certain point, c'est une puissance au niveau de l'état de droit, de la règle de droit et de l'indépendance judiciaire. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les juges québécois et canadiens donnent la formation aux juges étrangers. Vous savez, on était en Ukraine jusqu'à 6 mois avant le début de la guerre, pendant 10 ans de temps. On a formé les juges là-bas. On l'a fait dans d'autres pays également. Donc, je vous dis ça parce que, même si nous ne sommes évidemment pas à l'abri, et je pense que c'est bon qu'on soit au courant de ce qui se passe autour de nous, on a quand même une magistrature professionnelle qui va juger les dossiers selon la preuve, en toute indépendance et impartialité.
Mais en même temps, on voit une Cour suprême, c'est un autre régime, là, aux États-Unis, où on nomme des juges selon leur couleur politique, et on voit des jugements qui, et on a vu la Cour sur le dossier de l'avortement, où, dans le fond, le politique joue avec la carte de la Cour suprême pour atteindre ses objectifs.
J'espère qu'on n'arrivera jamais là. Et je pense pas qu'on va y arriver non plus. Je pense qu'on parle de deux sociétés complètement différentes au niveau de la magistrature. Et nous, le processus de sélection des juges est indépendant par des comités indépendants. On a une très belle impartialité et indépendance. Et je pense que c'est de nature, effectivement, à rassurer la population. Parce que vous avez raison, quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays, puis je veux pas nécessairement cibler ici là, un pays en particulier, je pense que dans ces pays-là, les gens auraient raison de douter de la crédibilité des décisions de ces tribunaux-là.
Parce que, par exemple, je veux pas me mettre dans l'embarras, mais comment la Cour suprême sur une question fondamentale comme celle de l'avortement peut prendre une direction si opposée à des décisions rendues antérieurement?
Ouais.
Si la base, c'est le droit. On peut se poser la question.
Ouais, on va leur laisser répondre à cette question-là. Nous, au Canada, on a un autre régime.
Donc, vous serez à Québec la semaine prochaine, puis la Cour réalise l'importance d'établir le contact et le dialogue avec les citoyens pour qu'on mesure mieux les enjeux de justice.
On va faire notre effort, notre contribution.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir, bonne journée.
Fin de journée.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape
pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Il y a une vague de chaleur, mais pas un peu, là. Une vague de chaleur extrême qui s'abat sur l'ouest des États-Unis et la Californie, avec des températures, là, en termes de Celsius, c'est pratiquement 50 degrés. Puis quand vous regardez, là, dans certains coins de la Californie, c'est 117, 118, 119 degrés. Geneviève Case est avec nous. Elle vit à West Hill. C'est un quartier qui est situé dans la vallée de San Fernando, donc en Californie. Madame Case, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
D'abord, parlez-moi un peu de la température que vous subissez depuis quelques jours. Parce que la chaleur, vous connaissez ça, mais ça fait déjà quand même un bout de temps que ça dure, là.
Oui, on est officiellement en vague de chaleur depuis le 30 août. Donc, c'est des températures en haut de 38 degrés Celsius à tous les jours. Il n'y a aucun répit. Aucun répit. Et c'est chaud, c'est humide pour nous, chose qui est rare. Et puis, c'est pas facile à vivre avec ces températures-là. Je vous dis, c'est surprenant cette année avec la longueur de la vague de chaleur qu'on a en ce moment.
Et on me disait quand même l'accès pour les plages, bref, l'océan, que c'est bloqué, c'est interdit.
Oui, il y avait des plages qui ont été fermées la semaine dernière. Il y a eu quatre ou cinq plages dans la région de Los Angeles qui ont été fermées à cause il y avait trop de bactéries dans l'eau et c'était pas sain pour les gens d'aller se baigner.
Comment se passent vos journées?
Oh, on essaie de rester au frais le plus qu'on peut. On est très chanceux, on a de l'air climatisé. C'est pas tout le monde qui a ce luxe-là, je vous dis. On est chanceux. Mais même avec l'air climatisé dans la maison, ça va à 28 degrés Celsius, des fois jusqu'à 30 degrés Celsius.
Et est-ce qu'il y a des messages des autorités municipales, de l'État de la Californie, des directives ou enfin des suggestions fortes faites aux citoyens?
Oui, depuis le 29 août, le comté de Los Angeles a quelque chose qui s'appelle une alerte flex. Donc, à partir de 16 heures jusqu'à 20 heures, 21 heures, ils nous demandent de pas utiliser nos électroménagers, changer notre air climatisé pour que ce soit plus chaud dans la maison, tout éteindre les choses qui sont pas nécessaires. Et puis, habituellement, c'est jusqu'à 8 heures, jusqu'à 20 heures, 21 heures. Mais là, les deux derniers jours, c'est jusqu'à 22 heures, 23 heures le soir. C'est beaucoup, parce que c'est quand les gens reviennent de travailler, c'est quand les enfants reviennent de l'école, parce que l'école est commencée ici. Donc ça, c'est toute une autre histoire pour les étudiants. Avec les températures, c'est pas facile.
J'imagine comment ça se passe pour le retour en classe.
Oh, et les étudiants, on a des suggestions, je peux pas appeler ça des lois, là, mais... Quand il fait au-dessus de 90 degrés Fahrenheit, les enfants peuvent aller dehors, mais ils n'ont pas le droit de faire d'exercice. Donc, à ce temps-ci de l'année, ils passent beaucoup de temps à l'intérieur, à faire des activités dans le gymnase. Ils vont pas dehors parce qu'ils peuvent tout simplement pas. On est dehors 5 minutes, puis c'est comme si on avait pris une douche. On est tout trempé.
Est-ce qu'au moins, il y a des bonnes nouvelles à l'horizon? Est-ce qu'on prévoit que ça va se rafraîchir un peu?
Oh, écoutez, tous les deux jours, on nous dit « Ah, ça va se calmer, ça va se calmer », mais ça change toujours, puis ça se rallonge. Mais là, on est supposé avoir seulement 3 autres jours en haut de 39 degrés, puis après ça, on est supposé avoir des orages. Donc, on va se croiser les doigts qu'il n'y aura pas trop de foudre puis que ça va être beaucoup de pluie.
Merci, bon courage à vous, Mme Case.
Merci beaucoup, M. Arcan. Bonne journée.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
L'annonce du décès d'Elisabeth II a provoqué hier, évidemment, toutes sortes de réactions. En Grande-Bretagne, bien sûr, on a vu les gens se rassembler devant le palais de Buckingham et des réactions dans la rue. D'ailleurs, on aura d'autres détails sur les événements à suivre aujourd'hui, notamment l'allocution que doit prononcer le nouveau roi, c'est-à-dire Charles III. Et je fais d'abord un peu un survol ce matin avec Étienne Boisvert, qui est de la Ligue monarchiste du Canada, qui est donc un spécialiste de la couronne britannique. Monsieur Boisvert, bonjour.
Bonjour.
C'est vrai qu'en Grande-Bretagne, bien sûr, beaucoup de réactions, mais à travers le monde, on a vu des réactions en France, on voit des réactions évidemment au Canada, aux États-Unis. Comment vous expliquez, je dirais, cette espèce de réaction mondiale au décès de la reine Élisabeth?
Je pense que c'est véritablement la contribution de cette femme. Puis aujourd'hui, hier, c'est 70 ans de règne, de dévouement. Les gens ont utilisé différents termes, mais je pense que c'était une femme, pour utiliser les termes de M. Trudeau, intéressée et intéressante. C'est une femme qui a vu les chefs d'État défiler. Quand on garde à l'esprit que son premier ministre au Royaume-Uni, c'était Winston Churchill, au Canada, Louis Saint-Laurent, elle a accompagné presque la population mondiale au cours des 70 dernières années avec grâce, avec dévouement, avec un sens du devoir qui a été presque irréprochable en 70 ans. Je pense qu'aujourd'hui puis hier, les réactions, c'est justement souligner, au-delà des débats qu'on peut avoir sur l'institution, la contribution de cette femme.
C'est clair que c'est un personnage historique, non seulement pour la durée de son règne, mais pour les événements, les crises, les hauts, les bas auxquels elle a été confrontée. Mais avez-vous l'impression qu'avec son décès, puis sans relancer tout le débat là, sur l'institution, la monarchie britannique risque peut-être pas de disparaître rapidement, mais de générer moins d'intérêt?
Peut-être que oui, peut-être que non. Il faut quand même garder à l'esprit que la monarchie britannique, là, c'est une institution millénaire qui s'est réinventée au fil des règnes, au fil des générations. Probablement qu'en 1901, à la mort de la reine Victoria, il y en a certaines voix qui s'élevaient pour dire que c'était la fin de cette institution-là, mais il y a un nouveau souffle qui est arrivé, il y a eu des changements. Par exemple, le rôle politique est quand même grandement diminué, puis dans un esprit démocratique, je pense que c'est souhaitable. Mais donc, le nouveau visage de la monarchie aujourd'hui, le roi Charles III, imprimera certainement quelques éléments sur cette institution, dans un règne qui devrait être quand même beaucoup plus court que celui de sa mère, mais quand même. Puis les prochaines générations, inspirées par cette histoire millénaire, certainement, là, que contribuera à l'institution.
On reviendra sur le nouveau roi. Parlons encore une fois de la reine Élisabeth II. Des gens qui, à l'époque, et on l'a vu à travers certaines séries, lui reprochaient une certaine froideur, une certaine distance, son attitude lors du décès de Lady Diana. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Mais je pense que c'était véritablement une femme qui a donné sa vie pour le sens du devoir. Elle avait une conception très traditionnelle de ce devoir, justement de cette retenue, d'une grande dignité. Puis en même temps, surtout au niveau, là, je pense par exemple au décès de Lady Di, un sens de la famille très important. Puis à cette occasion, puis différents films et différentes séries, le premier réflexe de la reine a été de s'occuper de ses petits-enfants qui venaient de perdre leur mère. Et puis elle avait peut-être un petit peu sous-estimé justement le besoin de soutien de l'ensemble de la population à cette époque, mais clairement une femme qui s'est dévouée à l'institution, puis qui a même sacrifié une partie de sa vie. Hein.
Quand on parle du successeur du pape, on peut parfois, selon le contexte, parler d'un pape de transition. Est-ce que vous croyez que le nouveau roi est un roi de transition et que, dans le fond, les Britanniques attendent William?
Je vous dirais que dans ce contexte-là, j'aurais tendance à vous dire qu'on jugera l'arbre à ses fruits. Certainement que ce sera un règne plus court, un règne de transition. Vous faisiez mention des papes. Je pense que dans le cas du pape François, on parlait d'un pontificat de transition. Et pourtant, sans être un expert du tout de l'institution, là, ça m'apparaît être un pontificat qui est plus que juste de transition. Donc, faudra voir. Je pense que l'institution institution au cours des 70 dernières années a quand même perduré. Que comment le prince Charles, le roi Charles aujourd'hui mettra son image, son jugera l'arbre à ses fruits peut-être.
En terminant, croyez-vous que ça va relancer le débat là encore une fois sur le Canada et la monarchie, donc de couper les liens avec la couronne britannique?
Peut-être que oui, peut-être que non. Il faut quand même garder à l'esprit là, au plan technique là, la loi constitutionnelle de 1982 au Canada, c'est pas un texte qui se modifie si simplement. Donc, faudra voir. Aujourd'hui, hier, je pense que les propos ont plutôt salué la reine, puis le règne impressionnant qu'elle a fait au cours des 70 dernières années. Plus tard, on pourra peut-être se poser quelques questions.
Merci beaucoup. Étienne Boisvert, qui est de la Ligue monarchiste du Canada. Maintenant, on va aller du côté de Londres parce que tout indique que le nouveau roi va prendre la parole en début de soirée, heure de Londres. Gérard Herens est avec nous, journaliste en direct de Londres. Monsieur Herens, bonjour.
Bonjour, Paul. Effectivement, le peuple britannique attend avec impatience tout de même la première intervention publique du nouveau souverain, Charles III, ce sera son nom. On avait quelque peu murmuré qu'il pourrait choisir un autre nom. On a parlé notamment de George VII, qui serait une sorte de coup de chapeau à celui qui fut son grand-père. Mais finalement, il conserve son premier prénom, ce sera Charles III, donc, qui va intervenir en fin de journée. Par ailleurs, dans quelques instants, d'ici un quart d'heure environ, l'artillerie britannique va tirer 96 coups de canon pour saluer les 96 années, bien sûr, de l'existence de la reine défunte et marquer ainsi le deuil national. D'autres signes de deuil, les manifestations sportives prévues aujourd'hui sont reportées, des matchs de football, de cricket, les courses de chevaux, tout cela est reporté bien entendu. Et puis les funérailles elles-mêmes auront lieu dans une dizaine de jours à l'abbaye de Westminster. La dépouille de la reine sera ramenée à Westminster dans le Westminster Hall, qui est un édifice qui est vieux de près de 1000 ans et qui est sur la place du Parlement, donc juste devant la Chambre des communes, et le catafalque sera dressé dans cette salle où le public pourra rendre un ultime hommage à la souveraine défunte.
Est-ce qu'on sait à quel moment aura lieu le couronnement officiel du nouveau roi?
Or, ça sera dans quelques mois. À titre indicatif, lorsque la reine avait été montée sur le trône, en quelque sorte, son couronnement n'avait eu lieu que 16 mois plus tard. Elle était devenue reine en février 1952 et son couronnement a eu lieu en juin 1953. C'est vous dire que ce ne sont pas des festivités, en quelque sorte, qu'on organise du jour au lendemain. Il va s'écouler quelques mois au moins. Je pense que ce sera pour l'été prochain.
Si vous aviez à traduire pour nos auditeurs ce matin le sentiment des Britanniques face au décès de la reine, qu'est-ce que vous nous diriez?
Alors, écoutez, la reine, c'est la mère de la nation. Hein? La très grande majorité des Britanniques n'ont connu qu'elle comme chef d'État. Il faut avoir 80 ans et plus pour se souvenir d'un autre chef d'État qu'elle. Donc, elle était présente par les médias, par ses interventions, tout au long de ces 7 décennies à la tête de l'État et du Commonwealth, soit dit en passant. Donc, c'est profondément ancré dans l'esprit des Britanniques. Et ça ne s'efface pas du jour au lendemain, naturellement, ce qui explique des déversements de larmes, des amoncellements de fleurs devant les grilles de Buckingham Palace, à Windsor également, un peu moins en Écosse, à Balmoral, où c'est une toute petite localité où la population est beaucoup plus clairsemée, mais à Londres, hier soir, malgré la pluie, il y avait des milliers de personnes devant les grilles de Buckingham Palace. Donc c'est vous dire que c'est un deuil profondément ressenti par toute la nation.
Gérard Herens, merci. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.